355-344 to secure your place.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Kia ora, good evening, bonsoir. Vous êtes sur l'émission francophone et francophile d'Auckland, 104.6 FM, Planète FM. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. C'est une émission radio préenregistrée, donc s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Et voilà.
On va pas vous donner le numéro de téléphone d'ailleurs.
Et ce soir, merci Steph. Bonsoir Steph.
Bonsoir.
Et puis on aura aussi dans le studio Fred qui nous rejoindra. Et puis donc c'est David à l'appareil. Et aussi de Paris sur téléphone, WhatsApp, on va faire de la pub, va nous rejoindre à un moment donné, après la première musique, Mademoiselle Blandine, Madame Blandine.
Bonsoir Blandine.
Bonsoir Blandine. Donc elle n'est pas là pour l'instant, mais on l'aura sur WhatsApp d'ici quelques minutes, parce qu'on va parler d'art et de littérature ce soir. Et donc Blandine revient du Centre Pompidou de Metz, et Fred va nous parler aussi un petit peu du Centre Pompidou de Belgique, où vous êtes allé, je crois, cette année ou l'année dernière?
Non, nous on est allé au vrai Centre Pompidou de Paris.
Bon, c'est pas pareil. Je mélange. Alors, on va se passer une petite musique et je pense qu'après, on verra si Blandine nous rejoint. Comme musique, j'ai choisi ce soir des musiques françaises. On va dire honneur à mes copains belges. Ça s'appelle Bruxelles. C'est du groupe. Il faut que je trouve d'abord. Voilà, Amuse-Gueule. C'est le groupe qui s'appelle, on arrive, c'est Boulevard Désert, et c'est la chanson Bruxelles. On y va? C'est parti.
C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. S'il ignorait tout de toi, tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile. Je serais l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. Sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs, jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore, il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Voilà, 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 c'est Bruxelles du groupe Boulevard Désert, très très sympa. Et je crois maintenant, Blandine nous rejoint, veut parler du Centre Pompidou, il y a une exposition, c'est jamais sympa. Et qu'est-ce qu'elle a dit que c'était ?
C'est l'ouverture du centre de Metz, de Centre Pompidou à Metz. Ouais. Si j'ai bien compris, parce que ils ont ouvert aussi un centre en Belgique.
Voilà. Donc Pompidou est en train de, c'est un peu comme le nouveau Guggenheim. Hein, c'est le Guggenheim qui s'ouvre un peu partout.
Ils ont mis 40 ans, mais maintenant ils essaient.
C'est rigolo. C'était juste.
Il y a déjà le Louvre qui est parti à Abu Dhabi.
Ouais, mais ça c'est normal. Mais en fait, c'est parce que j'imagine que les collections grandissent, et il faut les mettre quelque part, peut-être là. T'as envie que je te passe le casque.
Non, voilà, mais je crois aussi que c'est une façon de se rapprocher des gens qui viennent voir les expositions, quoi.
On fait des succursales et on envoie l'art là-bas.
Ouais, parce que d'un point de vue sustainabilité, c'est plus facile de transporter quelques objets d'art que
transporter 1 million de personnes par an.
Voilà.
Ouais. Et puis Metz, c'est à côté de l'Allemagne, donc peut-être qu'au niveau stratégique, c'est pas si mal que ça. Loin de la Suisse non plus. Donc une branche en Belgique, là, on a la Hollande, les Belges, les Luxembourgeois.
Mais c'est pour ça qu'ils font ça a toujours été que les musées s'échangent.
On a eu le Tate Gallery à Auckland, qui était venu avec une centaine d'œuvres. Mais bon, ça ne dure que 3-4 mois. Mais c'est déjà un bon goût.
Ouais, mais là, je crois que c'est l'idée d'avoir des partenariats de plus long terme. Mais Blandine va sûrement nous expliquer ça.
Ouais, tout ça. Oui.
On appelle Blandine.
Donc voilà, ça sonne.
Ah ouais, ça c'est plus simple qu'appel, effectivement.
Bonsoir Blandine, tu nous entends ?
Ça va ?
Oui, ça va très très bien.
Tu peux parler un peu plus fort ?
Vous m'entendez bien là ou pas ?
Ah oui, nous on t'entend bien. Oui, on espère que nos auditeurs et les auditrices nous entendent. Alors, tu es en direct de Paris, mais c'est une émission préenregistrée. Donc tu nous racontes quoi de Paris ? Il paraît que tu veux parler du Centre Georges Pompidou.
Ben, en fait, on va sortir de Paris parce que le Centre Pompidou a des antennes. Ça fait partie de ce qu'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer des musées en dehors de Paris, justement, dans des lieux, alors notamment dans l'Est et dans le Nord, il y a le Louvre à Lens et le Centre Pompidou à Metz.
Et aussi en Belgique.
Celui de Lens, en revanche, je suis allée visiter celui de Metz.
D'accord.
Ils en ont un aussi en Belgique, hein.
Oui, c'est ce que tu me disais, oui. Alors ça, j'ai pas encore eu le temps de le voir.
Ils ont ouvert ça l'année passée, si je me souviens bien.
Donc, ça c'est intéressant, en fait, parce que, d'une manière générale, moi, j'adore les centres, j'aime bien l'art contemporain. Enfin, j'adore l'art contemporain. C'est mon kiff. Et donc, j'adore aller dans les musées en province. Il y a souvent des très, très beaux lieux qui sont rénovés pour, justement, présenter des d'art contemporaine, et en général ce sont des lieux exceptionnels, et les expositions sont de grande qualité aussi. Donc là en l'occurrence, dans le cas de Metz, c'est pas un vieil endroit qui a été rénové, c'est carrément un monument qui a été il a été construit toute pièce par les architectes Shigeru Ban et Jean Gastine, et ça a le côté un petit peu organique de pas mal de monuments qui sont faits dans les 20 dernières années. Et je suis pas une grande fan du côté organique en général, mais ici, là, ça marche très très bien, parce qu'en fait, il y a une charpente en bois hallucinante qui soutient la structure, et qui est vraiment, vraiment magnifique. C'est une des plus grosses charpentes créées.
À part celle de Viollet-le-Duc qui a brûlé il y a pas longtemps, c'est ça ?
J'allais dire.
À part celle de Viollet-le-Duc qui a brûlé il y a pas longtemps à Notre-Dame, charpente en bois, mais bon.
Oui, voilà.
Donc c'est un monument tout moderne, qui est tout neuf.
Oui, donc ça ressemble un peu à une sorte de petit chapeau chinois dessus. Vu de loin, c'est assez rigolo, parce que vu de loin, il y a des blocs qui sortent, etc. Et c'est un petit côté. Comment on appelle ça, pas soucoupe volante, mais enfin engin martien, enfin venu de
nulle part, oui.
Et ça ressemble énormément à une photo que j'ai vue tout à fait par hasard au MoMA à New York, d'un monument très très étrange en Macédonie. Le lien est étrange, hein. Bon, donc c'est une photo que j'ai vue d'un monument qui lui ressemblait.
C'est où, la Macédonie?
J'ai demandé à une amie macédonienne qui m'a dit que c'était un endroit pour célébrer une bataille qui avait gagné contre les Turcs. C'est-à-dire c'est une espèce de grand module avec des modules qui sortent, mais de façon relativement simple et compacte. Donc ça reste beau. J'ai vu le musée de le Guggenheim de Bilbao, que je trouve vraiment, en termes d'architecture, complètement bordélique et qui ne me parle pas tellement. Là, on a quelque chose qui, effectivement, est assez original, pas fait d'un seul bloc, mais qui reste, qui reste original, avec des formes surprenantes, mais en vrai, qui reste compact et qui est une sorte d'unité qui est vraiment agréable à regarder.
Blandine,
Blandine,
je vais
te poser une question. Hein.
Vas-y.
Oui, je me demandais, là, est-ce que ça, le musée Centre Georges Pompidou, on voit bien le bâtiment à Paris, là? Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu parles de celui de Metz, là? En quoi est-ce que c'est aussi le Centre Pompidou? C'est simplement Paris qui envoie des œuvres là-bas parce qu'ils n'ont plus de place? Ou bien... Parce que pour moi, le Centre Georges Pompidou, c'est à Paris, quoi. C'est celui de Paris.
Ouais. Alors, oui, tout à fait. Donc, celui-là, ils l'ont appelé Centre Pompidou-Metz. Ils ont fait un truc dans l'architecture qui est assez amusant, d'ailleurs. C'est que il y a une grande... ils ont fait une grande flèche centrale qui culmine à 77 mètres, en référence à la date de création du Centre Pompidou à Paris en 1977. Et donc il y a vraiment un lien. Ils appellent ça, ils disent que c'est un musée sœur, un centre sœur. C'est-à-dire qu'effectivement, ils puisent dans les réserves du Centre Pompidou, mais ils ont quand même une totale indépendance culturelle, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui créent leur propre programme. Mais c'est ouvertement appelé le Centre Pompidou Metz. Donc, et puis d'après ce que disait Fred, il y a la même chose. C'est aussi une antenne du Centre Pompidou en Belgique.
Oui, donc en fait, en Belgique, ils ont... Il y a un bâtiment qui était l'ancien centre Citroën, c'était un emblème très connu. Il y avait tout le monde qui connaissait parce que c'était assez lumineux dans le soir quand tu étais coincé dans les embouteillages et que tu avais 10 ans et que tu rentrais chez soi après avoir été mangé chez les grands-parents. Et ça faisait une dizaine d'années que c'était vide. Il y avait déjà eu des événements et tout ça. Et c'est dans un centre, c'est dans un quartier de Bruxelles qui était avant le centre de douane du port de Bruxelles. Et qui depuis une vingtaine ou peut-être même 30 ans en fait est en train de se faire réaménager en centre d'art. Donc il y a pas mal d'endroits. C'est là où il y a maintenant un grand centre où il y a des festivals, il y a un centre de conférences. Et donc ils ont converti cet ancien magasin usine Citroën en centre Pompidou. Alors il s'appelle Canal, donc K-A-N-A-L, qui est une fusion du mot canal en flamand et en français, parce que canal en flamand c'est K-A-N-2-A-L et canal en français, vous savez tous comment ça s'écrit, c'est avec un C.
Non, non.
C-A-N-A-L. Et David a une mauvaise influence sur moi, Blandine, tu peux le savoir, tu peux le voir, tu peux l'entendre. Je me mets à épeler. Et donc en fait c'est près du canal.
J'ai des plaies, David est toujours au rendez-vous.
Voilà. Et donc c'est près du canal de Bruxelles. Qui est en fait pour ça que Bruxelles existe. Et donc, il y a le centre Tour et Taxi qui est là où il y a pas mal de festivals. Et donc, ça s'appelle Canal Centre Pompidou. Canal Bruxelles Centre Pompidou.
Mais est-ce qu'ils n'utilisent pas un peu le terme Pompidou pour attirer le client? Parce que si c'est un musée indépendant, bon, ben, c'est un musée indépendant. Mais si
non,
c'est
non,
Pompidou,
non,
c'est Pompidou, quoi.
Non, non, ça, c'est vraiment, ça a été créé comme. Pour la Belgique, c'est un créé comme un partenariat entre la région Bruxelles-Capitale, la partie de la Belgique où le centre existe, et le centre Pompidou pour créer des expositions utilisant les ressources des deux centres. Donc utilisant des œuvres d'art du centre Pompidou, mais spécifiques à l'endroit où c'est, quoi. Et donc par exemple, une des
expositions... C'est vraiment les réserves du Centre Pompidou qui sont utilisées pour les expos de Metz. Hein. Donc là, c'est vraiment...
Ok, ouais.
C'est pas pour faire parler d'eux, ça fait partie de la même entité, on va dire.
Mais là, ça fait partie aussi de la même entité, mais sauf qu'il y a aussi des expositions qui sont typiques à Bruxelles. Donc par exemple, ils ont, pour l'instant, il y a une des expositions, c'est sur une des façades qui a été détruite de Victor Horta. Donc ça, j'imagine que c'est très typique à Bruxelles. Mais il y a aussi des expositions qui viennent directement du Centre Pompidou. C'est un partenariat, en tout cas.
Et tu l'as vu, ce centre de Metz?
Alors, justement, j'y suis allée il y a deux jours, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Juste pour vous dire rapidement, il a été ouvert au public le 12 mai 2010. Donc ça fait à peu près 9 ans, c'est relativement récent quand on parle de musée en France. Et donc ils précisent bien qu'il est autonome dans ses choix scientifiques et culturels, comme je vous le disais. Je voulais juste finir rapidement sur l'architecture. Le musée a une surface de 8000 m2, il est entièrement réalisé en bois et sa charpente est composée de modules hexagonaux qui ressemblent un peu au canage d'un chapeau chinois. Et d'ailleurs le toit ressemble un peu à quelque chose d'un petit peu chinois. Bon, bien sûr la toiture n'est pas régulière. Et donc ils disent que cette charpente en bois est l'une des plus grandes et des plus complexes réalisées à ce jour. Voilà, donc, et c'est effectivement, cette charpente en bois donne vraiment un plus au bâtiment. Et donc j'y suis allée pas seulement pour voir l'architecture, hein, mais surtout pour aller voir deux expositions. Ils ont trois galeries d'exposition qui sont des longs tubes de 80 mètres, pas de 80 mètres carrés, pardon. Ils ont des longs tubes en fait sur trois étages, et donc ça fait trois galeries, et à chaque étage il y a une exposition. Nous il n'y en avait que deux quand on y est allé. La première, alors des œuvres de super qualité, mais ça c'est un truc, hein, depuis que je suis revenue en France, je suis allée balader, j'habite pas loin du Centre Pompidou, du coup j'y vais souvent, j'ai ma carte, etc. Et la qualité des œuvres présentées, bon, on n'est pas habitué à ça en Moselle, on faut dire les choses comme elles sont, hein, et c'est d'une qualité hallucinante, c'est-à-dire que moi je suis bouche bée en permanence quand j'y retourne, et là c'est exactement la même qualité. Donc il y avait deux expositions. Une qui s'appelle L'aventure de la couleur, et donc il y avait des œuvres de Matisse, il y avait des œuvres de Klein, donc il y a vraiment des Buren, enfin bon, quand même ils puisent vraiment dans les collections de Pompidou, du coup il y a vraiment des choses de grande qualité. Cette exposition là sur l'aventure de la couleur montre comment effectivement les artistes contemporains ont abordé la couleur d'une façon différente, donc on n'est plus. On commence plus ou moins avec Matisse, et ça va de Matisse jusqu'à nos jours, avec les différentes utilisations, et notamment l'utilisation, on parle aussi des monochromes, de la couleur comme pensée, etc. Pas mal d'œuvres super intéressantes. Le seul petit souci en cette expo, ça a été beaucoup de vidéos, ce que j'adore, hein, puisque je fais des films sur les artistes et que j'adore leurs vidéos. Mais le souci, c'est qu'en fait, ils ont un système qui est assez intéressant d'enceintes qui sont dans le sol, donc le son sort du sol, ce qui est bien pour une vidéo, ce qui est un peu problématique quand on a un espace qui est relativement ouvert, et qui du coup, le son se mélange, et il y a certains films qui sont difficiles à entendre, et dans certains lieux, c'est assez cacophonique. Mais donc, si jamais il y en a certains d'entre vous, alors l'exposition finit le 22 juillet,
mais si... On n'aura pas le temps, là, hein. Peut-être l'émission elle va passer après, quoi, toi.
Non, on va essayer de la passer avant. Il y a le 6 juin.
Et d'ailleurs, je viens de finir de lire l'histoire de Bruxelles. En fait, c'est un truc temporaire. Donc, c'est en attendant de savoir ce qu'ils vont faire de l'endroit. Donc, c'est jusque mi-juin. C'était pour 13 mois le centre Pompidou à Bruxelles.
Ah, donc à Bruxelles, c'est pas temporaire, c'est pas permanent.
Non.
Il y a une autre expo à Metz, donc toujours au centre Pompidou, qui a lieu jusqu'au 30 septembre, donc là vous avez plus le temps. C'est un artiste coréen, Lee Ufan, U-F-A-N, et Lee L-E-E, pour David.
Merci.
Et donc, c'est un artiste, il est peintre, sculpteur, poète et philosophe. Il travaille aujourd'hui entre le Japon et la France, il est né en 1936. Et il travaille beaucoup avec des choses, avec l'espace, des choses très simples, le temps. Alors bien sûr, on trouve, par exemple, à un moment donné, une reproduction d'une maison de thé. On rentre dans certaines salles où c'est du petit gravier avec des beaux cailloux. Et surtout, c'est son utilisation de la peinture qui est complètement hallucinante. Il a grandi en Corée, il a appris la calligraphie très jeune. Et du coup, il a une maîtrise incroyable du pinceau à main levée. Et il utilise, par exemple, il a un tableau avec plein de lignes, les unes à côté des autres, avec plein de peinture au début, très peu de peinture, et donc exprimant le temps qui s'efface, mais aussi avec à main levée, il fait des lignes les unes à côté des autres, c'est bluffant, quoi, c'est magnifique.
Blandine.
De plus en plus la toile.
Allô? Oui, là tu parles de lignes à main levée, et on a Caroline là, qui est arrivée dans le studio. Il se fait qu'on a visité le centre Pompidou en 2017, à Paris, et on est allé au dernier étage. là où il y a tous les trucs modernes, etc. Alors ça a un peu passé au-dessus de la tête des enfants, mais je me souviens qu'ils ont beaucoup ri de certains trucs, justement, un carré bleu, un piano cassé, des choses comme ça. Donc c'est un peu à ça que ça me fait penser. Là. Bon, c'est bien amusé. Hein.
Ce qui est assez amusant, et moi j'ai vu ça avec les enfants, quand on fait des musées, c'est que les musées plutôt classiques, genre égyptiens ou même peinture...
peinture sur bois du 14e siècle
impressionniste. Non, mais ça leur, aux enfants, ça leur parle pas tellement, ils trouvent ça chiant. Alors que quand on rentre dans un espace d'art contemporain, parce que c'est souvent ludique, parce que ça dépasse les bornes, parce que c'est souvent extrêmement gros, extrêmement. Parce que ça percute, ça fait penser, ça fait réfléchir. Et visuellement, en tout cas, ça a un impact souvent bien plus important qu'une œuvre qui est plutôt classique. Et du coup, je trouve que les enfants répondent vachement bien à l'art contemporain.
On va poser une question à Caroline.
Ce que je trouve super intéressant.
Caroline, viens un peu dans le micro là. Est-ce que tu te souviens de la visite du musée Pompidou à Paris?
Non.
Tu t'es déguisé en ninja avec un foulard dans les cheveux et t'avais pas arrêté de faire le clown en ninja. Tu te souviens du carré bleu?
Oui.
Et on avait compté le nombre de fesses qu'on voyait, le nombre de seins qu'on voyait aussi.
Oui.
Ça t'as un souvenir de ça? T'as bien aimé ou?
Bien aimé.
Ah bah voilà.
De fesses ou le nombre de seins.
Et donc là, elle avait 6 ans à l'époque, hein, elle a bien aimé.
Non, mais c'est vrai aussi, c'est que du coup, en fait, elle avait commencé à faire le ninja parce qu'il y avait un des tableaux où il y avait un bonhomme en bleu aussi. Et donc, elle s'était déguisée comme un des personnages d'un montage, en fait.
Des activités, des ateliers que tu faisais avec tes enfants?
Non, c'était pas du tout les ateliers, c'est spontanément, c'est sorti devant l'art moderne.
Quoi. C'est surtout que, en fait, c'est grâce à toi, quelque part, c'est qu'en fait...
En plus, l'art contemporain, c'est fait pour ça aussi, hein. C'est fait pour
oui, mais en fait...
agir, il y a une espèce de dialogue, et c'est génial quand
même. Non, mais c'est...
Les enfants ont une ouverture d'esprit qui fait qu'ils réagissent encore plus... de façon plus intuitive.
Nous, on réagissait plus à l'absurdité, en fait. Hein.
Non, mais c'est aussi, c'est que, en fait, moi, j'avais vraiment envie de regarder l'exposition et je m'étais souvenu de deux, trois visites que tu avais organisées pour les petits lascars, où tu demandes aux enfants de regarder les tableaux et de te donner leur impression. Et donc, en fait, comme je connais pas aussi bien l'art que toi, un des trucs, c'est que j'avais essayé de la faire catégoriser les tableaux entre ceux qui utilisaient plutôt des lignes courbes, ceux qui utilisaient des lignes droites, ceux qui mettaient des gens nus. Et puis ceux qui avaient l'air d'être n'importe quoi. Et comme ça, au moins, ils regardaient les tableaux. Et puis, du coup, j'avais le temps de regarder les tableaux, en fait. Voilà.
On a beaucoup ri.
Voilà. Alors, laquelle des deux expositions tu recommandes des deux, toi, personnellement?
J'en ai une à pas recommander, donc c'était pas bien. La dernière de Pompidou, ils ont fait une exposition qui s'appelle La Préhistoire, où ils font un sort de parallèle entre les pièces préhistoriques et l'art moderne, contemporain. Ouais, moderne plutôt, on va dire. Et donc, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme concept. En revanche, il y a des pièces préhistoriques magnifiques, hein, dont il y a des trucs très très beaux, pas beaucoup, mais ce qu'ils ont, c'est très beau. Les sculptures qui correspondent à ça, donc il y a pas mal de sculptures, il y a Matisse, Jean Harp, il y a quelques très très belles sculptures. En revanche, en peinture, c'est un peu faiblard, quoi, parce qu'effectivement, la préhistoire, ça parle à tout le monde, et surtout aux artistes, parce que c'est un peu là les premières traces qu'on a en fait de la création artistique. Donc pour un artiste, ça parle. En revanche, dans le cadre d'une exposition, c'était pas fantastique. Il y en a deux, mais je pense que je rappellerai pour vous dire ce que j'en ai pensé, deux que je dois aller voir. Une sur l'art russe au Grand Palais, donc l'art révolutionnaire en tout cas, l'art, et une autre sur la Lune. Et alors celui sur la Lune, ça a l'air d'être une exposition mi-scientifique, mi-artistique. Alors, est-ce que ça va être bâtard comme celui de la préhistoire? J'en sais rien, mais en tout cas, je vous rappellerai pour vous en parler, parce que j'ai vraiment envie de voir ces deux expositions.
Bravo.
Eh ben, ça va à Paris, sinon?
Ben oui, ça va. Moi, j'ai des musées autour de moi, des petits cafés. Genre, et comment ça commence à peu près attendre, donc les Parisiens sourient, enfin.
Ah ouais, ça arrive, ça.
Et donc, oui, non, c'est très, très agréable.
Et sinon, l'entrée du centre Pompidou à Metz, c'est prix fixe, gratuit, cher, par rapport à celui de Paris?
Non, écoute, c'est... alors, je ne vais pas dire par rapport à celui de Paris, parce qu'encore une fois, j'ai pris une carte à Paris, mais les tarifs, c'est 7 euros, 10 euros ou 12 euros. Alors, si vous allez à Metz, rien que pour le voir, c'est très facile, c'est juste à côté de la gare, hein. C'est derrière la gare.
Donc tu prends Gare de l'Est. Pour Metz, c'est Gare de l'Est, tu prends le train ?
Gare de l'Est,
oui. Gare de l'Est, direct. C'est combien d'heures de train Paris-Metz ?
Non, mais tout le monde ne vient pas de Paris, hein. Il y a des gens qui viennent de Bruxelles. Non ?
Oui, c'est vrai, mais il faudra prendre d'autres trains.
Bah, c'est à peu près, une heure et demie peut-être.
D'accord, donc c'est assez court.
C'est dans le coin, là, ouais. En haut à droite.
Voilà.
Sinon, c'est 2 heures de route depuis Bruxelles.
Ouais, en passant par Luxembourg.
Mais dis-moi, est-ce que c'est ouvert à Metz plutôt qu'ailleurs, parce que c'est pas loin de l'Allemagne et il y a beaucoup d'Allemands. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers ou ça reste quand même local?
Bah écoute, les visiteurs, nous quand on se fait balader par Metz, à peu près pas mal de groupes. On entendait des jeunes allemands, des groupes. Alors, donc je suis certain qu'en étant placé là, il y a des gens qui viennent de l'Est.
D'accord.
Je pense que ce mouvement là dont je parlais tout au début, à savoir Lens dans le nord et puis Metz dans l'Est, c'est qu'il faut savoir que les régions du nord et de l'Est de la France sont quand même des régions qui ont vraiment souffert des fermetures de mines, etc., qui ont eu lieu au début du siècle dernier, qui ont eu lieu le siècle dernier. Et du coup, c'est une façon de redynamiser ces régions en fait, en créant quelque chose de culturel pour faire venir les gens. Et pouvoir effectivement leur redonner un peu vie, parce que dans certains cas, c'est un petit peu des lieux qui ont extrêmement souffert des problèmes économiques.
D'accord, et j'imagine que stratégiquement aussi, comme Guggenheim, c'est à Bilbao, c'est pas très très loin de la frontière des Pyrénées, j'imagine. Les Français se sont peut-être dit, on va peut-être pas mettre ça à Toulouse, c'est trop près, ou Marseille, Nice, c'est trop près de l'Italie avec tous ces musées aussi. Donc,
non, mais je crois qu'aussi.
Il y a des choses qui se sont faites à.
Oui.
À Marseille de 6.
Oui.
C'est qu'il y a tout, chaque fois que, au fil des années, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des nouveaux lieux qui sont créés, qui sont ouverts à l'art. Il y en a un qui s'est ouvert à Paris, dans des anciennes pompes funèbres, qui est un endroit hallucinant, où en fait ils ont créé des lieux de spectacle, mais qui sont aussi des lieux où c'est entouré de cités. Hein. Dans le 19e, c'est un arrondissement très particulier avec beaucoup de cités assez inhumains comme paysage urbain. Et donc, ils ont réaménagé ces pompes funèbres. Et donc, j'y suis allée un samedi, c'est incroyable. Donc, il y a des salles d'exposition, donc on peut aller voir des expositions. D'ailleurs, c'est une exposition de super grande qualité. Et il y a deux plateaux, l'un au-dessus de l'autre. Et là, c'est couvert de jeunes qui font des exercices, qui dansent ensemble, qui répètent des chorégraphies, on a l'impression d'être dans l'école fame, quoi. Enfin, il y en a un nouveau maintenant, je sais pas ce que les enfants regardent, je crois qu'il y a d'autres écoles de danse dans les séries de télévision, mais c'est vraiment ça. On voit plein de gens qui répètent des chorégraphies ensemble, des gens qui s'entraînent à faire du cirque ensemble, et c'est un lieu qui est assez, assez magique. Et ça, c'est un lieu qui a été créé il y a pas longtemps non plus. Donc,
mais
la France, pour ça, c'est quand même un lieu exceptionnel en termes de création, et je pense que c'est l'art contemporain qui en profite le plus.
D'accord. Mais en fait, je pense que c'est aussi un mouvement de certaines villes et même à Auckland, ils font ça. En fait, récemment, pour ceux qui connaissent à Auckland, il y a le Melville Center, qui est un centre qui est près de la place, qui est pas loin de High Street. Okay.
Près du bar belge.
Et en fait, j'ai découvert récemment que ce centre, on peut l'utiliser gratuitement si l'événement qu'on y organise est digne de ce nom d'après le l'Auckland Council. Et donc, par exemple, nos étudiants de notre département, ils ont organisé une science fair. Ils ont eu droit à l'endroit gratuitement. Ce qui fait que les gens qui passent s'arrêtent. Et en fait, aussi, en même temps, il y a une place juste à côté. Il y avait un groupe qui chantait, qui était là, à mon avis, parce que
Chancellery, c'est la
ouais,
Chancellery
c'est, ouais,
place.
Ouais, voilà,
ouais.
Voilà.
Ouais,
et donc, et puis il y a un groupe qui est venu faire du K-pop. Et en fait, du coup, cette place vit. Et j'étais, enfin, ouais. Et en fait, j'avoue que je ne vais pas très souvent en ville.
Galerie Tiberanki est super bien aussi, hein.
Ouais.
Tu vois, il faut rentrer, Blandine.
On a du K-pop sur la place de la Chancellerie. Ça te dit?
Auckland, c'est le nouveau Paris.
On a du K-pop.
Ah, super.
Non, mais au moins, enfin, je veux dire, ils font des choses. Non, mais je crois que c'est dans le même sens, c'est de se dire qu'en fait, si tu donnes l'espace aux gens, en fait, ils créent, quoi. Et ils se l'approprient et ils font des choses. Quand tu dis qu'il y a des jeunes qui se mettent à danser parce qu'ils ont droit à un espace, en fait, les gens utilisent l'espace si tu leur donnes et que tu tu fais ça de manière sympa.
Il
quoi.
Faut quand même que ça soit des carrefours stratégiques, parce que je sais que la mairie de Waitakere, quand j'y étais il y a 10 ans maintenant, on avait créé un studio d'enregistrement de son et musique à côté de la piscine olympique à Henderson. Et en fait, malheureusement, la mairie avait mis trop de restrictions. Il fallait être de 15 à 25 ans, fallait vraiment faire vraiment de la musique ou des arts reliés à la musique, au son, etc., etc. Et en fait, j'ai pas eu l'impression que ça marchait très, très, très bien parce que si ça, c'était pas assez ouvert. C'était un bel espace à côté de la piscine, pourtant à côté d'un parc à Henderson, mais je pense pas que ça a profité à tout le monde parce que trop de gens se sont sentis exclus. Si t'avais 26 ans, t'étais foutu. Si t'avais 14, t'étais foutu. Si tu c'était pas vraiment que de la musique ou du son ou autre chose, tu pouvais pas. Et donc ça.
Tandis que le Melvin Center, c'est un petit espace, mais il y a un toit donc tu peux utiliser dehors et puis t'as toute la place. Donc quand il fait beau, c'est énorme.
Mais il n'y a peut-être pas de restrictions non plus, c'est ce que je veux dire. Ils ont peut-être.
C'est juste qu'ils acceptent ou pas autour de ton événement.
Et puis, quand c'est polyvalent, il y a 10 fois plus de choses.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Mais là, il faut que qu'ils acceptent ou pas ton événement. Il faut qu'ils le trouvent suffisamment intéressant. Quoi. Ouais. Mais du coup, il y a des tas de gens qui viennent sur la place là, qui, elle, n'importe
qui. Et c'est High Street, donc c'est le carrefour d'Auckland, Park Queen Street.
Le bar belge.
Oui. Et le carrefour belge. Ouais.
Oui, c'est vrai. Mais moi, j'y étais jamais allée.
C'est vrai.
Enfin, si, j'y suis allée le soir pour boire un verre. Voilà. Mais je savais pas que c'était une place qui vivait, quoi.
D'accord.
Bah, avec des trucs.
Plein de cafés, ça fait longtemps.
Oui. Mais je veux dire, où il y a des choses qui se passent, c'est un centre culturel. Enfin, un centre culturel.
Bon.
Un centre d'événements, on va dire.
Blandine, quel...
J'ai un marché à aller faire, mes amis.
D'accord.
Fais
un bon marché et tu nous conseilles une musique. Est-ce que tu as une musique que tu as écoutée le dernier mois nous, on peut essayer de faire Deezer ou Spotify.
Je suis nue en musique. Une personne.
Tu te mets pas dans ta voiture ou sur ta moto ou je sais pas, quand tu te déplaces, t'écoutes pas les nouvelles.
Le dernier artiste à la mode à Paris.
À Paris, ça se déplace n'importe comment maintenant. Il y a des scooters, les fameux scooters partout.
On en a.
Personne n'a de casque.
Ouais, pareil.
Aussi les skateboards avec moteur.
Oula.
Vous savez, là, tu as une seule roue, là, on met un pied de chaque côté.
Ouais.
Et ça va de partout, ça fuse de partout. J'ai l'impression d'être à Delhi maintenant en ce moment à Paris, tellement il y a de gens dans tous les sens.
Voilà. Bon, on va te laisser. Bon marché. Tu vends quoi dans ton marché?
Oui.
Tu vends quoi?
Non, je vais. C'est juste un marché de nourriture.
Ah, tu vas acheter alors, tu vas acheter. D'accord.
C'est, voilà.
Il faut que tu manges.
C'est un marché pour manger, on va dire.
D'accord. Bon, bonne cuisine alors.
Bon appétit.
Bon appétit.
Oui.
Et reviens-nous quand même. Hein.
Oui.
Et bonne fin d'émission.
Merci.
Salut.
À une prochaine, Blandine. Merci encore.
Ciao.
Voilà, c'était Blandine de Paris qui nous a parlé du Centre Pompidou de Metz et de deux expositions qui s'y passent en ce moment. Mai et jusqu'en juillet pour une, jusqu'en septembre pour l'autre.
Voilà.
Merci encore Blandine. On se passe une petite musique. Alors, c'est Demain de Big Flo et Oli. Allez, c'est parti.
Big Flo et Oli, tu connais non?
Petit biscuit.
Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien. Rien. Ça y est. Ça y est. dit. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, 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 rien. La nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, mais j'écoute rien, rien, rien. On dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, mais j'écoute rien, rien, rien.
C'était demain, Big Flo et Oli. Très sympa, moi je... Big Flo, pardon. Tu connais Big Flo?
Non.
C'est Anatole qui n'a pas le micro,
Anatole,
qui est très loin, mais qui parle quand même.
Micro, Anatole.
Mais c'est pas grave. Merci Anatole.
Est-ce que tu connais?
Juste
un petit peu.
Je connais juste le nom.
Est-ce Big que t'as Flo. Bien aimé?
Ouais.
Bon, les enfants, petit peu de littérature après l'art.
Après l'art.
Je vais vous lire des poèmes. C'est des poèmes pour les enfants. Non, je rigole. C'est parce que quand même, c'est le c'est l'année dernière, c'était 2018, centenaire de la guerre 14-18, la fin de la guerre 14-18. Cette année, c'est les 75 ans, c'était la semaine dernière, il y a deux semaines, les 75 ans, le 8 mai, c'était... Non, pardon, le 8 mai, c'était les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est les 50 ans de l'arrivée de l'homme sur la Lune.
Il y a ça aussi, donc c'est pour ça la poésie, ça sert à tout, parce que... on peut parler de la guerre, comme de l'amour, comme de la lune.
Parce que vous dites, donc chez vous, c'est arrêté
non,
en 44.
C'est pardon, le 8 mai 44, c'était quoi? Non, c'est le 8 mai 45.
C'est 45.
Pourquoi ils disent 75 ans, alors?
Elle s'est arrêtée en 44 pour certaines personnes.
Oui, l'Allemagne a capitulé...
Ah non, par contre, c'est 75 ans du 6 juin 44. Débarquement, 6 juin 44,
Les 75
ans.
C'est
le début de la fin. Enfin, la fin a duré longtemps, parce qu'avant ça, il y avait le débarquement en Italie, etc. etc. Oui, on est en train de faire du boucan hein, dans les studios. Hein. En fait, on va faire une spéciale bouffe un peu. On s'est bu un petit rouge.
Spécial bruit dans le studio.
Et puis, on est passé aux gruyères, mais tout à l'heure, j'avais de bœuf, de buffle.
Bon, moi, je m'envoie la fin du
Mais bulgare, et c'était bulgare, la fête.
C'est du gruyère.
C'est du gruyère.
Bon, les enfants, taisez-vous, je vais vous lire une poésie qui date, puisque, mais pas beaucoup, c'est quand même de l'art moderne. C'est de Benjamin Perret. C'est P-E-R-E-T. Je te lis ça. Ça s'appelle Épitaphe sur un monument aux morts de la guerre. Okay. Le général nous a dit, le doigt dans le trou du cul, l'ennemi est par là. Allez! C'était pour la patrie. Nous sommes partis, le doigt dans le trou du cul. La patrie, nous l'avons rencontrée, le doigt dans le trou du cul. La maquerelle nous a dit, le doigt dans le trou du cul. Mourez ou sauvez-moi le doigt dans le trou du cul. Nous avons rencontré le Kaiser, le doigt dans le trou du cul. Hindenburg, Reichshofen, Bismarck, le doigt dans le trou du cul. Le grand-duc X, Abdul Hamid, Sarajevo, le doigt dans le trou du cul. Des mains coupées, le doigt dans le trou du cul. Ils nous ont cassé les tibias, le doigt dans le trou du cul. Dévoré l'estomac, le doigt dans le trou du cul. Percé les couilles avec des allumettes, le doigt dans le trou du cul. Et puis tout doucement, nous sommes crevés, le doigt dans le trou du cul. Priez pour nous, le doigt dans le trou du cul. Voilà, c'était Benjamin Perret qui
comique de répétition.
Ouais, c'est mais surtout c'est de la poésie d'après-guerre quoi, parce qu'il a dû avoir
il a dû être affecté.
Il
un
l'avait
peu,
eu, hein. Il l'a eu dans le fion comme ils disent.
Ouais.
Non, donc c'est de la,
c'est un
la poésie
imagée.
Imagée et ce qui veut dire que de même à l'époque. Bah voilà, c'est.
C'est après quelle guerre, la première, deuxième guerre.
Ouais, c'est après la première guerre parce
ouais,
que.
Ça sonne plutôt de première.
C'est pour la patrie, machin chose, ouais. Et puis c'est Bismarck, hein. Bismarck,
ah
c'est.
Ah bah ouais. Ouais. Première guerre,
voilà. Voilà.
Mais
voilà.
C'est.
Voilà, c'est ça... pas très imagé, c'est cru, c'est mais c'est de la poésie de guerre parce qu'ils l'ont eu dans
comme
le baba.
Comme quoi, quand tu utilises des gros mots mais de manière.
C'est pas tout de suite, voilà.
Tu peux terminer
Eminem, en... Eminem et tout ça.
Ils vont terminer dans une anthologie.
Voilà, voilà.
Ouais, enfin, ceci dit, c'est peut-être moins engagé, quoi.
Oui, là, c'est parce qu'à mon avis, c'est anti-guerrier, quand même.
Ouais, et puis, ça, ouais, c'est engagé.
Voilà.
Le doigt dans le...
Voilà.
Trou du cul.
Alors, j'en ai une belle, parce qu'on on les aime toujours. Et ça m'a fait penser à la Nouvelle-Zélande, celle-là, bizarrement. Bah, à nos conflits... ou nos semi-conflits Maori-Pakeha... aussi à nos politiques. C'est assez rigolo, ça parle à tout le monde, à mon avis. C'est une fable française.
En parlant de Pakeha, vous avez vu, il y a toute une polémique à propos de ce que veut dire Pakeha.
Oui, c'était à la télé la semaine dernière. Mais,
oui.
La semaine dernière.
Ouais.
Ouais.
Tu veux dire,
ouais,
il y a six semaines. Hein.
Oui, il y a quelques semaines.
Mais aussi, enfin, j'avais eu la discussion une semaine avant avec des Maoris, et en fait, pour eux, ce qui est vraiment important, c'est juste dire que tu n'es pas Maori. Quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est important de le signaler. Et donc, en fait.
Tous les autres mots, c'est. Les gens qui disent, oh, c'est des cochons blancs, machin, c'est n'importe quoi, mais.
Non, mais je crois qu'aussi, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, dans le census de Stat New Zealand, c'est qu'en fait, il y a une colonne. European oui. Pakeha, et du coup en fait c'est associé à être blanc.
Non, c'est New Zealand European, le mot Pakeha
il n'est pas dedans, hein,
c'est
français.
Ça c'est un peu
mais
un...
dans certains formulaires c'est associé à européenne, je
oui,
crois.
Bah, en fait c'est toujours ça, c'est-à-dire que soit t'es Maori, Samoa, Tongan, blablabla, soit t'es New Zealand European. Donc si t'es d'Europe ou si t'es de Nouvelle-Zélande mais pas Maori, t'es New Zealand European. Ce qui est un peu bizarre parce que quand tu es libanais, comme ceux qui ont fait du vin à l'ouest, les Corbans, bah c'est des le Liban, je suis désolé, mais c'est pas Europe.
Non.
Et mais c'est des Néo-Zélandais. Donc ils se mettent où quelle case, parce qu'ils sont pas Samoa non plus.
Non. Ils sont Pakeha.
Bah oui, mais il y a pas dans le census, il y a pas Pakeha.
Ouais.
C'est NZ European, donc c'est un petit problème à mon avis. Et c'est pareil pour les Européens, comme nous, Belges, Français. Eh ben, on n'est pas Néo-Zélandais européens. On est Européens, quoi. Nos enfants.
Moi,
quand je remplis le census pour mes enfants, je dis Néo-Zélandais Européens,
ah,
parce qu'eux, ils sont nés
comme
ici.
Comme NZ, maintenant que j'ai la nationalité.
Bah, moi, j'ai pas la nationalité encore.
Toujours pas?
Ah, encore? Non.
Je fais de la résistance. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je peux tout faire, sauf devenir Premier ministre. Donc, pour l'instant, je me dis...
Ouais, et puis là, on en a une bonne. Hein.
Ouais.
Avec le précédent, je t'aurais peut-être préféré. Là, ça va.
Non.
Allez.
Alors, ça s'appelle le chat, la belette et le petit lapin. C'est mignon. Ça vient d'Ésope. C'était un grec, il y a longtemps. Il écrivait des fables. Et puis, La Fontaine, il n'a rien trouvé de mieux. Il s'est dit, oh, tiens, je vais les réécrire, mais en français. Pas bête, La Fontaine. Non, mais il a mis son au goût du jour. Alors, du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, celui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays !» La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont, de ce logis, rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or, bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas, Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippomino leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippomino, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.
Moi, j'ai rien compris. Hein.
T'as rien compris, mais je te raconte l'histoire. L'histoire, c'est que si t'es Pakea et Maori, que tu dis j'étais là le premier, et puis que l'autre il dit ah ouais, ouais, mais t'étais parti de ton terrier, donc je suis là le deuxième, mais il n'y a pas de loi naturelle qui dise que t'étais là avant moi, c'est celui qui l'occupe maintenant. Hein. J'ai le droit d'être là. Hein.
Voilà.
Tu vois le truc ?
Ou bien comme...
Donc, mais des fois, tu vas voir les politiciens ou les rois, et puis les deux personnes sont punies. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de pouvoir, des fois, ils font une commission, ils disent « Ah, on va vous écouter, on va parler. » Et puis, en fait, tout le monde perd.
Sauf eux.
Sauf les politiciens, oui. Ouais. Ils continuent toujours à vivre d'habitude. Enfin, voilà. C'est juste une petite fable qui a 400 ans, puis avant ça, Ésope, il l'a écrit sûrement 2000 ans avant ça, et bizarrement, c'est quand même d'actualité.
Mais parce que c'est un problème vachement actuel, c'est aussi... C'est...
Qui a le droit d'être là, le premier ou le deuxième ? Celui qui est là de père en fils, ou celui qui a dit « moi j'ai trouvé le logis vide, donc les terres étaient là, je les ai prises ».
C'est un problème qui se passe...
De tous les temps.
De tous les temps. Par exemple... pas si loin que ça, beaucoup plus récemment, en ex-Yougoslavie, au Kosovo et tout ça, donc la plus grosse, ce que faisaient les casques bleus essentiellement, c'était en fait, donc les gens qui avaient fui, leur maison était vide, il y avait des gens qui étaient déplacés d'ailleurs, qui avaient fini par occuper ces maisons qui étaient vides, et puis la guerre était finie, les gens d'avant reviennent, et qui a tort, qui a raison, tout le monde est déplacé, tout le monde a besoin d'un toit, ça a été le boulot des casques bleus pendant des années, tout n'est toujours pas résolu, et le gros problème, c'est qu'en fait la plupart des conflits renaissent des situations comme celle-là qui ne sont pas réglées complètement, parce que
c'est pas vraiment réglable si les premières maisons n'existent plus ou si les deuxièmes maisons n'existent plus.
Mais
tu as deux habitants pour une seule maison.
C'est surtout, si tu ne règles pas complètement l'affaire, ça ressurgit, quoi.
Non, puis en plus, il y a des antagonismes et des envies et puis des sentiments à fort qui renaissent et ça couve, quoi, malheureusement. On va passer une petite musique, hein, t'es d'accord, hein, Steph ?
Moi, ouais, je suis d'accord, moi.
Ouais, il aime bien les musiques, hein, Steph.
On va se passer du belge, je pense. Hein, du belge.
Belge.
du belge.
Angèle
ouais. Je réserve.
Moule frites, moule frites de Stromae hein.
Non, Angèle.
Attends, je sais pas. Oui, Angèle est belge.
C'est pas Adèle, c'est Angèle.
Qui Adèle.
Qui est Angèle?
Angèle, c'est la fille de Laurence Bibot.
Qui est Laurence Bibot?
C'est Miss Bricola.
C'est qui Miss Bricola?
Il faut regarder la télé.
C'est qui la télé?
Et donc, Angèle.
Pas de, à mon avis, parle pas de Miss Bribola à notre télé à la maison.
Ouais.
Parle que de quoi? Dancing with the Star, Cooking, Tralala,
Masterchef,
Driving License Failed, Crash My Car Yesterday.
Donc, je peux finir, je peux remplacer une. Alors, donc,
attendez.
Angèle, c'est la nouvelle étoile montante. Enfin, ça
Sinon, endroit. J'avais un. Ah non, la chanson scientifique, on la réserve pour après.
Non, on veut Angèle. Hein.
Tu veux celle qui semble, qui on dirait Louane, la presque oui. La même voix que Louane, ou celle que t'as dit Moon, ou je sais pas quoi.
Non, allez, Moon.
C'est Vérité, c'est de Claire Laffut. Allez, on y va. Vous allez peut-être reconnaître la voix. Peut-être qu'il y a une voix belge, en fait. Allez, on y va.
Allez, une fois.
Encore peut-être inavoué, peut-être encore jamais dévoilé. Je l'ai vu à la télé. Si je mange, je vais en enfer. Faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je te trouve dans la foi, au fond d'envie l'amour. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je te trouve dans la foi, au fond d'envie l'amour. Si je mange, je vais m'en faire. J'ai un parfum d'espérance au fond de moi. Au fond de moi, y'a comme un manque de cohérence dans ce malheureux silence. Au fond de toi, au fond de toi. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je te trouve dans la foi, au fond d'envie l'amour. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je te trouve dans la foi, au fond d'envie l'amour. Si je mange, je vais m'en faire telle.
C'était la vérité, Claire Laffut. une jolie gentille belge. Je sais pas si elle est jolie, hein, j'ai pas vu sa photo. Je dis n'importe
la quoi. La FU, c'est un nom très belge.
Ouais, elle a deux FUT.
Ouais, ouais.
Ouais, la FU, ouais.
Pour
ouais.
rester dans les plaies.
C'est comme ça que je l'aurais écrit, moi.
Ouais, ben bah, c'est les pompes funèbres du village de ma grand-mère, c'est la FU.
Voilà. Voilà. Moi, j'étais beaucoup à la FU, moi. Henri de Régnier. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'eau lente qui m'écoute quand je me penche sur elle. Si j'ai parlé de mon amour, c'est au vent qui rit et chuchote entre les branches. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'oiseau qui passe et chante avec le vent. Si j'ai parlé, c'est à l'écho. Si j'ai aimé de grand amour, triste ou joyeux, ce sont tes yeux. Si j'ai aimé de grand amour, ce fut ta bouche, grave et douce, ce fut ta bouche. Si j'ai aimé de grand amour, ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches. Et c'est ton ombre que je cherche.
C'était quoi ça?
C'était Henri de Régnier.
Quelle époque?
Henri de Régnier, c'est aussi un moderne. Bonne idée. On va faire un petit une recherche hein, pour pas
c'est
faire de.
C'est différent comme style. Hein.
Mais c'est quoi ce livre?
C'est plus classique là. Hein, c'est plus classique. C'est un monsieur qui s'appelle Georges Pompidou. C'est pour ça que je fais le lien avec Blandine tout à l'heure dans l'émission. Pompidou, hein. Monsieur Pompidou a écrit une œuvre phénoménale. Et il était avocat, je crois, hein, de métier avant d'être président de la République en France, juste après De Gaulle. Et il a écrit un de ses livres qu'il a écrit, c'est Anthologie de la poésie française, qui est honnêtement l'une des meilleures anthologies de poésie française.
Tu peux me rappeler ce que ça veut dire le mot anthologie
hein. Anthologie, ça vient aussi du grec. On est beaucoup dans le grec ce soir. Hein.
Mais enfin, on en parle.
Ouais, ouais. Anthos, c'est le temps, hein, c'est ça, Anthos. Non, je sais plus. Donc le langage.
Bah, Chronos, le temps.
Oui, Chronos, c'est le temps. Ouais. Une ontologie, c'est un livre.
Logie, ça veut juste dire parler.
Oui, le langage, ouais, langage.
Donc une ontologie, c'est quoi?
Donc c'est l'ontologie, c'est un recueil d'habitude de choses d'écriture sur un sujet. Là, le sujet, c'est la poésie française.
Pourquoi ça s'appelle pas recueil de poésie alors?
Parce que anthologie, c'est dans le temps, c'est aussi sur une durée. Et d'habitude, une anthologie, c'est assez complet, c'est-à-dire que ça va du début jusqu'au moment où
fin.
Non, parce que tu peux pas faire de fin puisque le temps continue et Pompidou est déjà mort depuis longtemps. Donc non, ça reste bien la partie la moins utilisée de ce livre, la moins représentée. Bizarrement, c'est le 20e siècle. Donc ce que je vous ai lu tout à l'heure avec les mots que je ne peux plus prononcer, mais c'était de la poésie tout à l'heure, mais maintenant je peux plus le dire. C'était l'anthologie de la poésie française du 20e siècle.
Ça s'appelle aussi Anthologie de la poésie française.
Oui, mais du 20e siècle, celle-là. Donc c'est spécialisé.
Mais c'est pas Georges Pompidou.
C'est aussi gros que l'autre, sauf que ça ne couvre pas quand même les artistes majeurs, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, tout ça, puisque eux n'étaient pas du 20e siècle. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que j'aime quand même ce petit bouquin de Georges Pompidou. C'est un assez gros bouquin. Ça survole le 20e siècle et puis ça coupe court. Il s'est arrêté dans les années 50, je crois. Mais donc, il manque l'autre moitié du 20e siècle. Dans la série Poésie, mais il n'y a pas que ça. Quand on lisait ça au lycée en France, mais peut-être en Belgique, je ne sais pas, il faut me dire les enfants. Est-ce que vous aviez pas les Rougon-Macquart
Non, les mouchons.
Oui.
Ouais.
Comment ça s'appelle? C'est pas mouchon, c'est. Je l'ai dans le sac, tu veux me le prendre? Donc ils ont une anthologie, mais c'est de la littérature française.
La guerre des Michards,
voilà. Donc du 20e siècle. Et ce que j'ai fait, c'est comme moi, j'ai vécu dans les années 70 surtout et 80. Donc j'ai grandi avec la guerre des Michards, mais le 20e siècle de la guerre des Michards en 85, 86.
Il manquait
un gros bout. Parce qu'en 85-86, l'édition donc était de 78, quoi. Donc il manque bien 25 ans.
Si ton école s'était pas mise au goût du jour, ce qui est dans la plupart des écoles.
Tu te mets au goût du jour, mais j'avais 15 ans en 84, donc je pouvais pas acheter l'édition de 1999. C'était pas encore là. Je ne pouvais pas encore me projeter dans le temps, ni la gare des Michards. Donc, ce que j'ai fait il y a 10 ans.
C'est quoi le machin des Michards?
La gare des Michards, je te montre.
C'est les anthologies, on les a tous eus à l'école.
Bah, j'ai jamais
pas tous, non, il y, y avait une grosse guerre. Il y avait je crois que c'est Michelet aussi.
Il y avait une anthologie. Science, maths, anglais, hein, donc forcément.
Donc, c'est des gros tomes, c'est collection littéraire La gare des Michards. C'est ça a été écrit par les éditions Bordas.
La gare des Michards,
ce sont deux messieurs. Français, les grands auteurs français, anthologie et histoire littéraire. Ce que j'aimais beaucoup, c'est écrit tout petit. Hein, par contre, c'est très chiant. Ce que j'aimais beaucoup, c'est beaucoup d'extraits de livres. Donc, ce n'est pas que de la poésie. Hein, par contre, là, c'est du texte. Donc, il y a du Voltaire, il y a du Rousseau, pas au XXe siècle, hein, bien avant. Il y a du Molière, il y a tout, il y a du Racine. Donc, il y a de la prose, mais il y a de la poésie aussi. Mais surtout, ça explique, c'est-à-dire qu'il y a du commentaire et ça met dans le contexte politique, social de l'époque. Donc, il y a un chapitre sur la philosophie de l'absurde et ça commence par Albert Camus, par exemple. C'est très, 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 très bien écrit. Il y a des critiques. On peut tout critiquer sur la vie, puis les Français sont champions du monde pour critiquer. Mais il y a de temps en temps des belles œuvres d'art pour illustrer ou des photos d'artistes, d'écrivains. Mais ça reste quand même très très bien expliqué et ça fait travailler les ménages, c'est-à-dire qu'ils n'essaient pas tout le temps de te donner toutes les réponses, ils posent des questions en même temps. Donc quand tu es un enfant de 16 à 18 ans, puisqu'on utilise tout ça pour aller jusqu'au bac en France.
Tu as lu ce livre à l'école, toi?
Bah oui, en première.
Et toi aussi, Fred?
Ouais, moi c'était le livre de référence qu'on utilisait.
Les livres, puisque en fait.
Il y a La Gare des Michards, il y en a un par année.
Voilà, c'est ça, par cent, par siècle. J'en ai trois dans le sac et j'ai le 17e, 18e. Le Moyen-Âge, il fait rapide, c'est 11e ou 14e siècle. C'est un tome qui fait.
C'est genre ce que nous on appelle la troisième.
Moi j'ai jamais lu ce livre.
Apparemment, anthos, en grec, ça veut dire fleur.
La fleur, le langage de la fleur. Voilà.
Ou la fleur du langage, plutôt.
La fleur du langage. Voilà, la fleur du langage, c'est beau. C'est pour ça que je lis de la poésie.
C'est la crème de la crème, quoi.
Il nous reste que 3 minutes. On dit bonsoir. Merci à Anatole d'être passé. Fred d'avoir interviewé notre copine parisienne.
Soir.
Mais non.
Il est 7h05.
Il est 7h05 du soir.
La vraie heure.
En hiver, quelque part.
On va se préparer une bonne semaine.
Merci Fred d'être passé, d'avoir interviewé Blandine à Paris.
Merci Blandine.
Merci Blandine. Merci Steph à la technique et c'était David. À la prochaine semaine, on ne sait pas qui passe puisque c'est préenregistré. On se passe à Ta peau, c'est de Charlotte, une autre Belge. Juste histoire de dire.
Belgique.
Moi, que je disparaisse à travers tes caresses.
Fais bien ça.
C'est toi qui décides, je t'aime dans le
vide. Une fois de plus, une fois encore, je me donne à tort. Une fois de plus, une fois de trop, il part au galop. Sans aboyer.